FBTP de Blanquefort, le centre de formation du bâtiment et des travaux publics en Gironde, ici à Blanquefort. Et nous sommes, nous sommes en présence.
Oui, bonjour, Serge Vernejou, je suis adjoint pédagogique au CFRBTP de Blanquefort.
Alors, monsieur Vernejou, on va vous demander de présenter votre centre de formation.
Oui, alors le CFA BTP de Blanquefort fait partie d'un dispositif qui comprend environ 75 CFA répartis sur tout le territoire et patronné par le 3CA BTP. Ce CFA peut accueillir environ 1200 à 1300 jeunes, c'est l'effectif que nous avons actuellement, répartis sur la quasi-totalité des métiers du bâtiment et également quelques métiers des travaux publics.
Quel métier du bâtiment et quel métier des travaux publics?
Alors, concernant le bâtiment, nous avons trois pôles essentiellement. Donc, un pôle plomberie, chauffage et couverture. Un pôle maçonnerie, plâtrerie, carrelage et peinture. Et un troisième pôle menuiserie, charpente, métallerie. Pour chacun de ces pôles, il y a un certain nombre de diplômes qui sont préparés, donc de métiers. Si je prends le pôle gros œuvre, donc il y a le métier de carreleur mosaïste, constructeur en béton armé du bâtiment, les constructeurs en canalisation des travaux publics, les maçons, les peintres et applicateurs de revêtements, les plâtriers plaquistes, et voici présenté donc l'activité gros œuvre. Ensuite, on a tous les métiers du bois, avec le métier de charpentier, de constructeur bois, donc constructeur à ossature bois, hein, c'est les maisons bois que l'on voit fleurir un petit peu sur tout le territoire. Des constructeurs d'ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse. Donc ça, c'est plutôt des menuiseries, donc portes et menuiseries et fenêtres en alu. Les menuisiers fabricants, des menuisiers installateurs et également des serruriers métalliers. Donc serrurier métallier qui travaille encore donc le fer sur un certain nombre d'ouvrages, bien que ce matériau-là soit un petit peu, je dirais, délaissé ces dernières années. Ensuite, on a donc pour la filière plomberie-couverture, le métier de couvreur, bien sûr, le métier d'installateur sanitaire, installateur thermique, et également complété avec une mention complémentaire qui est la mention zingerie. Et puis on a également pour ce métier des brevets professionnels, équipement sanitaire et monteur et installateur en génie climatique. Voilà donc présenté l'essentiel de nos métiers. Nous sommes sollicités pour mettre en place dès cette année notre métier, le métier de constructeur de route pour la Fédération régionale des travaux publics.
Très bien, monsieur Vernejou. Alors, vous le disiez, ces différentes filières, on le voit, elles sont nombreuses, un panel important, permet d'accéder à des niveaux de diplôme différents. Alors, peut-être on pourrait revenir avec vous, finalement, quels diplômes peuvent être apportés par ces différentes filières?
Donc, l'entrée se fait systématiquement par un CAP, donc pour toutes les filières qui ont été présentées. Le CAP étant pour certains donc un objectif et puis ensuite avec l'entrée dans la vie active et je dirais que les études s'arrêtent là. Et puis pour d'autres qui ont envie de progresser un petit peu, donc nous avons en complément du CAP un certain nombre de BP, brevets professionnels, qui correspondent à un niveau 4, c'est l'équivalent donc d'un bac, et qui permettent à certains, donc pour les plus à l'aise et ceux qui ont les meilleurs résultats, donc de prétendre à terme à encadrer une équipe. C'est une possibilité donc d'évolution au sein même de la formation initiale, par alternance bien sûr.
En proportion, on a une idée de ceux qui s'arrêtent au CAP et ceux qui continuent jusqu'au brevet professionnel, monsieur?
Oui, alors une idée, ça sera vraiment très approximatif. J'ai l'impression que nous sommes aux environs de 25% quoi, qui continuent, qui poursuivent les études, et pour les autres donc qui rentrent dans la vie active purement et simplement avec leur CAP et qui vont donc travailler dans les entreprises qui les ont accueillis au cours de la formation.
Alors, monsieur Vernejou, ces différentes filières, finalement, elles s'adressent à qui et à partir de quel âge?
Alors, elles s'adressent, donc ce sont des filières où l'on prépare son diplôme par la voie de l'apprentissage. Donc, elles s'adressent à des jeunes dès l'âge de 15 ans, Et puis, on va dire jusqu'à 25 ans. Hein, c'est la plage le couramment utilisée. Elle s'adresse également à des jeunes hommes et jeunes femmes, puisque la totalité des métiers sont accessibles aux jeunes filles. Et donc, nous avons une mixité à peu près dans toutes les formations, hein, y compris dans celles qui sont peut-être les moins attendues, comme de la maçonnerie, du carrelage, de la métallerie ou des choses comme ça, quoi. Là, on a quelques candidates et qui, ma foi, s'illustrent plutôt bien dans ces métiers. Je pense entre autres à une jeune fille qui a été distinguée récemment donc dans le métier de la couverture.
Oui, mais en effet, Monsieur Vernezoux, pour avoir eu l'occasion déjà de visiter votre établissement, on avait rencontré déjà des jeunes apprentis filles ici, et même au salon Aquitech, on avait, je crois, croisé des apprentis carrelage mosaïque, voilà, des jeunes filles effectivement qui aimaient beaucoup leur métier. Donc on l'a vu, donc c'est important cette mixité, même si effectivement on imagine que dans certaines filières, le nombre de filles est encore aujourd'hui moins important que ce qu'on pourrait croire pour demain. Mais on le voit, l'intégralité de ces métiers sont accessibles effectivement pour les deux genres, garçons ou filles. Alors on l'a vu, à partir de 14 ans, vous disiez qu'on peut rentrer dans ces filières jusqu'à 25 ans. Alors à quel moment de l'année? Quand on est jeune, on est encore au collège ou on arrive au lycée, on a la possibilité d'y accéder. À quel moment de l'année on doit se préoccuper, vers qui on doit se tourner pour, disons, avoir les premiers renseignements, les premiers conseils, les orientations nécessaires pour aller vers ces filières de formation et d'alternance?
Alors, il y a des journées qui sont organisées. Il y a par exemple les mercredis de l'apprentissage qui sont des journées consacrées à l'accueil des jeunes dès le plus jeune âge. Pas forcément des jeunes qui vont intégrer l'établissement d'ailleurs dans l'année en cours. Ça peut être des jeunes qui sont en quatrième, voire moins, qui viennent s'informer donc sur les différents métiers et puis les modes de formation. Ça peut être également des jeunes qui sont très diplômés, puisque là aussi aujourd'hui il y a une évolution, c'est que on retrouve des jeunes qui s'inscrivent dans nos métiers, dans nos formations, qui sont déjà titulaires d'un bac, voire de bac plus 2, voire au-delà. Donc ce sont des jeunes qui avaient choisi des orientations qui étaient peut-être un peu bouchées, qui ne voient pas d'issue et qui finalement s'intéressent à ces métiers manuels. Donc ensuite, pour pouvoir intégrer l'établissement, je dirais que la première démarche, dès l'instant où on a choisi son métier, où on est certaine de ne pas se tromper, la première démarche est de se mettre en contact avec des entreprises, de les rencontrer bien entendu, d'évoquer le projet, et puis d'essayer de faire en sorte que l'entreprise devienne l'entreprise d'accueil et donc signe un contrat d'apprentissage avec le futur apprenti.
Oui, alors là, Monsieur Vernejoux, effectivement, c'est important. En fait, vraiment, la condition sans laquelle rien n'est possible pour rentrer dans une filière d'apprentissage pour un métier qu'on a déjà nommé, hein, pour les plusieurs métiers que vous proposez. Finalement, la condition nécessaire, c'est de trouver un employeur, finalement, un patron, une entreprise qui est prêt à vous prendre en formation professionnelle, en apprentissage.
Oui, bien sûr, c'est la condition sine qua non, hein, sinon effectivement il n'y a pas de formation possible, puisque la formation n'est possible que dès l'instant où il y a un contrat de signé. Alors aujourd'hui, je dirais que les conditions d'accueil dans les entreprises peuvent se compliquer un petit peu compte tenu de la crise qui sévit depuis ces dernières années. Donc certaines entreprises hésitent un petit peu en fonction de leur plan de charge à s'engager auprès d'un jeune. Malgré tout, bon, une majorité est favorable à l'apprentissage compte tenu des bénéfices que ce principe de formation apporte, à savoir que ça permet effectivement de former des jeunes à l'activité essentielle de l'entreprise et aux méthodes de travail de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on embauche quelqu'un directement, titulaire ou pas d'ailleurs d'un diplôme. On n'a pas forcément cette expérience telle qu'on l'aurait voulu, du moins chez la personne embauchée. Alors qu'en apprentissage, pendant 2 ans, on peut former les gens, hein, vraiment à ces méthodes de travail, à ces techniques.
La règle, Monsieur Vernejoux, c'est d'arriver, de se présenter, par exemple, votre établissement, votre centre de formation du bâtiment des travaux publics, avec déjà une adresse, un nom. Voilà, j'ai rencontré Monsieur Tan, il est chef d'entreprise, il est prêt à ce que je travaille au sein de son entreprise. Et donc, je viens vers vous pour trouver cette formation dans votre centre. C'est comme ça que ça se passe, ou vous trouvez des jeunes qui viennent ici prendre des renseignements et qui n'ont pas encore trouvé leur entreprise. Dans ce cas-là, vous avez peut-être un carnet d'adresses où vous pouvez faire un relais.
Oui, bien sûr, il y a différents cas de figure. Donc, le cas de figure où le jeune arrive chez nous en disant ben, j'ai une entreprise, je voudrais m'inscrire au CFA, ben,
C'est la voie royale.
c'est la voie royale, effectivement. Dans ce cas, donc, on vérifie quand même les aptitudes par rapport à la formation choisie et visée. Mais je dirais que c'est assez généralement, c'est pas ce genre de cas qui pose problème. Nous avons donc des jeunes qui viennent chez nous, effectivement, qui ont identifié le parcours qu'ils souhaiteraient avoir et qui, par contre, n'ont pas d'entreprise. Dans le dispositif des CFA, il existe un poste qui est un poste de développeur qui consiste, pour les gens qui sont chargés de travailler à ce poste-là, qui consiste à mettre en relation des entreprises avec des jeunes. Ce qui veut dire qu'on a une liste d'entreprises qui est susceptible d'accueillir des jeunes. Et à côté de ça, on a des listes également de jeunes qui sont candidats à la formation, mais qui n'ont pas d'entreprise. Donc le travail de ce développeur est d'essayer de mettre en relation les binômes et de constituer les binômes pour faire en sorte que la formation se mette en place.
Justement, grâce à ce développeur, réussir à mettre en adéquation l'offre quelque part et la demande, si, grâce à cette expérience, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des filières qui ont du mal à recruter et en inverse, il y en a qui sont saturées.
Oui, bien sûr, malheureusement, on le déplore, hein, mais je peux citer par exemple un métier qui pourtant est un métier qui est intéressant et puis qui est recruteur de jeunes. C'est le métier de constructeur en béton armé du bâtiment, pour lequel traditionnellement on est en déficit de candidature de jeunes, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et à côté de ça, on a d'autres métiers qui, on ne sait pas pourquoi, peut-être par rapport à leur image, constitue un déséquilibre, mais dans l'autre sens. Le métier de tout ce qui est relatif à la plomberie en particulier, donc bénéficie d'une bonne image. Nous avons donc pas mal de candidats pour suivre ce genre de formation, et par contre, on a du mal à trouver suffisamment d'entreprises pour les accueillir.
Voilà. Alors, Monsieur Vernezoux, juste pour revenir sur les détails pratiques de l'inscription, c'est à quel moment dans l'année où on doit faire la démarche d'aller vers vous, vous rencontrer le centre de formation du bâtiment et des travaux publics? C'est au printemps, l'été? On imagine qu'en ce moment, vous préparez ardemment la rentrée?
Oui, bien sûr, actuellement c'est la période propice pour se rapprocher du CFA, effectivement. Déjà depuis, on va dire, 2 mois, on commence à recevoir des candidatures. Bon, là, actuellement, on est vraiment au cœur du dispositif et puis c'est vraiment le moment de se présenter. Bon, je dirais qu'on peut, et on admet couramment tous les ans des jeunes avec des dossiers qui nous arrivent fin août, voire début septembre. Mais enfin, début septembre, c'est vraiment le dernier cara, quoi, hein, parce qu'après, les formations ont commencé et puis on ne peut pas raccrocher quelqu'un avec une semaine ou 2 semaines de retard, quoi.
Peut-être un petit mot sur la vie au sein du centre de formation. Alors ici, les jeunes, justement, on l'a dit, avec ce système en alternance, donc passent un temps en entreprise, passent un temps au centre de formation. Donc justement, le rythme, la temporalité, ça s'effectue comment?
Alors nous sommes sur un rythme de 3 semaines, c'est-à-dire que les jeunes qui intègrent une formation, quelle qu'elle soit, viennent une semaine au CFA, au cours de laquelle donc on va alterner des formations professionnelles avec des formations théoriques et d'enseignement général. Et ensuite, ils vont rejoindre l'entreprise pour 2 semaines, ce qui veut dire que le rythme est de 3 semaines. Ils reviennent au CFA toutes les 3 semaines. Et comme cela, donc sur 13 semaines de formation par an, soit 26 semaines sur les 2 ans. Et ça leur permet effectivement d'aborder assez sereinement les épreuves du CAP.
Ensuite, Monsieur Vernezoux, on imagine aussi qu'il y a des apprentis qui arrivent, on va dire, en dehors de l'agglomération bordelaise. Alors pour ceux-là, bon, qui sont un peu éloignés de leur famille, il y a un hébergement, il y a un internat ici sur place?
Oui, bien sûr, oui, on a un internat. Bon, c'est vrai qu'on a une fréquentation qui reste modeste au regard de l'effectif total, compte tenu des transports en commun qui existent ici sur la communauté urbaine de Bordeaux. Mais effectivement, nous avons un internat qui a été remis en état il y a quelques années de ça, qui a une capacité d'accueil de 120 lits et qui est, on va dire, utilisé, c'est variable bien sûr en fonction de la période, mais qui est utilisé en gros à 80-90%.
Cet internat peut accueillir également des garçons et des filles.
Oui, bien sûr, c'est un internat mixte avec un dispositif d'encadrement et d'animation.
Ensuite, bon, on imagine aussi qu'il y a un système de cantine, de self, où ils peuvent se restaurer.
Oui, bien sûr, il y a un self effectivement qui est mis à disposition des jeunes à midi, donc pour ceux qui sont demi-pensionnaires et pensionnaires, et puis donc le soir et le matin, bien sûr, pour le petit déjeuner, pour accueillir nos pensionnaires.
Peut-être pour revenir à l'inscription, est-ce que ça comporte des frais, voilà, pour l'apprenti ou la famille de l'apprenti, bon, des frais d'inscription, on imagine, et ensuite pour le long de sa scolarité, on peut chiffrer à peu près ce que ça représente?
Oui, alors effectivement, ça génère quelques frais, la prise en charge effectivement des coûts d'hébergement et de restauration. Le montant, je ne peux pas vous le donner précisément, je ne l'ai pas en ma possession là immédiatement, mais ça reste quand même relativement modeste et c'est quelque chose qui est soumis en conseil de perfectionnement auprès des gens qui encadrent notre conseil d'administration.
Très bien. Alors donc, on va poursuivre un peu sur les questions financières. On le dit souvent, ça permet une certaine autonomie aussi aux jeunes qui font le choix, qui font le choix de ces filières d'apprentissage, parce qu'il y a une rémunération de la part de l'employeur ou de la part d'une collectivité.
Oui, bien sûr, il y a différentes formes. Donc, il y a la partie, on va dire, contractuelle. Quand on signe un contrat d'apprentissage, donc ça rentre dans le cadre du code du travail. Et donc, la rémunération est calée sur des niveaux de rémunération qui sont fonction de l'âge et du diplôme visé. Donc, ça peut varier de 45% du SMIC jusqu'à 100%. Ensuite, il peut y avoir des aides particulières concernant les transports en particulier. Aides qui viennent de la région et qui sont allouées donc sur présentation d'un dossier.
Très bien. Voilà, nous reprenons Monsieur Vernezoux. Oui, il y a encore quelques années, on va dire que la voie de l'apprentissage était encore un peu dénigrée au détriment de l'enseignement plus général. Et aujourd'hui, en temps de crise, depuis 2008, mais on en entend de plus en plus parler, on a l'impression que l'apprentissage revient à la mode. Alors, qu'en est-il?
Oui, je crois qu'on peut dire effectivement que l'apprentissage revient à la mode. Il fut un temps effectivement où c'était pas forcément gratifiant que d'apprendre son métier par l'apprentissage. Enfin, ça c'est quelque chose qui est bien français parce qu'on a pu observer en particulier du côté de l'Allemagne que des gens se formaient au métier, dans les différents métiers jusqu'au niveau d'ingénieur par la voie de l'apprentissage. Donc ils n'ont pas du tout la même approche et ni la même considération pour ce mode de formation. Alors chez nous, c'est en train d'évoluer effectivement. Parce que même si c'était pas forcément une très grande pratique dans le bâtiment et les travaux publics, c'est une question de culture, hein, mais c'était pas forcément très pratiqué. Les gens ont bien vu, quand je dis les gens d'ailleurs, les entreprises, hein, ont bien vu l'intérêt qu'il y avait à former un jeune, à le préparer donc à ses modes de fonctionnement, à le préparer aux techniques. Et puis avec les aides mises en place, finalement c'est un principe de formation qui reste abordable, même s'il n'est pas neutre en termes de coût, mais enfin qui reste abordable, qui reste intéressant pour l'entreprise. C'est un des points aussi qui est particulièrement intéressant, c'est l'intégration des jeunes dans l'entreprise. Parce que lorsqu'on a formé un jeune pendant 2 ans, qu'on a pu l'apprécier, mesurer ses qualités, etc., pour l'entreprise, c'est quand même essentiel, si elle peut porter sa confiance dans ce jeune, de pouvoir le recruter définitivement. C'est une garantie de ne pas se tromper sur l'individu et sur les compétences de l'individu. Donc pour ces raisons-là, je crois qu'effectivement, l'apprentissage est en bonne voie. On voit que les gens qui ont essayé ce mode de formation, eh bien, n'hésitent pas à y retourner. Donc c'est un signe.
À vous écouter, Monsieur Vernezoux, on peut penser que finalement les filières d'apprentissage en France sont appelées à se développer.
Oui, je le crois, il y a encore de la place pour du développement. Et on a encore cette semaine, j'ai des entreprises qui m'appelaient et puis qui étaient déçues qu'on ne puisse pas proposer une poursuite d'études aux jeunes qu'ils ont actuellement en apprentissage. Donc ça veut bien dire que il y a un besoin, les entreprises y voient leur intérêt. Donc il y a encore, je pense, une marge de progression dans ce domaine.
Oui, vous citiez l'Allemagne un exemple. Effectivement, si on espère un jour rattraper l'écart qui nous sépare, ne serait-ce qu'en nombre d'apprentis entre les deux pays, c'est vrai qu'on a encore de la marge. Mais d'ailleurs, je crois savoir que votre centre de formation du bâtiment et des travaux publics fait souvent des campagnes de communication pour chercher à recruter plus de jeunes et peut-être des jeunes qui pensaient pas à ces filières-là. Je pense notamment une campagne de presse que vous avez fait, c'était en 2011, sur la preuve par trois, l'innovation, la diversité, la réussite dans la filière du bâtiment et des travaux publics. Voilà, c'est une réalité où on peut voir sur la plaquette à la fois une jeune fille, mais aussi un jeune homme d'origine étrangère. Ça aussi, c'est quelque chose d'important de dire, ben voilà, dans l'apprentissage, vous ne trouverez pas des filières où on discrimine, soit à cause de la couleur de la peau, soit parce que vous êtes une fille. Ça, c'est aussi c'est important dans des métiers dits, on a l'impression qu'ils ont l'étiquette masculine, hein, que ce soit le bâtiment ou les travaux publics. Voilà, donc ça, c'est aussi un message important, ce qui permet aussi de toucher peut-être d'autres publics. On pense aux filles notamment, mais pas seulement.
Oui, bien sûr, je crois que là, tous les vecteurs de communication sont importants pour les CFA et puis enfin tous les gens qui forment au métier, aux différents métiers. Pour nous, la couleur de peau, effectivement, n'est pas un souci, hein. Nous-mêmes, nous accueillons ici au sein de l'établissement des jeunes qui sont d'origines diverses et variées, des jeunes femmes également, on l'a dit déjà tout à l'heure, mais qui interviennent sur les différents métiers. Donc, bien sûr qu'il y a une volonté d'ouvrir, bien sûr qu'il y a une volonté de l'établissement de porter le message. Le plus largement possible en direction des collèges, des manifestations qui sont organisées par diverses structures. On essaie d'être présent à chaque fois qu'on le peut et de bien expliquer ce qu'il est possible de faire dans nos métiers. On est là aussi pour rassurer parce que certains parfois se posent des questions sur les parcours de formation, etc. Il faut savoir que les CFA et le CFA de Blanquefort tout particulièrement donc attachent une grande importance à individualiser des parcours et à prendre en compte donc les difficultés ou à l'inverse les compétences déjà acquises des jeunes de façon à vraiment leur adapter le parcours qui leur va le mieux.
Alors, on le sait, et pour clôturer sur cette question sur les discriminations, on le sait aussi, la difficulté pour des personnes en situation de handicap, plus généralement d'évoluer tout simplement dans la ville ou dans la vie de tous les jours. Mais justement, sur cette question-là, est-ce qu'il y a aujourd'hui dans votre établissement des filières qui seraient adaptées à des personnes en situation de handicap? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pouvez recevoir ce type de public? On imagine que c'est certainement lié aussi à la nature de l'handicap.
Oui, bien sûr, ça existe. Nous avions, juste pour illustrer le propos, nous avions cette année un jeune qui a passé son BP, qui va passer son BP, pardon, qui est sourd et muet, donc qui est assisté d'une interprète, etc., et qui a bénéficié d'un parcours de formation étudié et élaboré pour lui. Alors certes, on n'en reçoit pas énormément, mais on a la capacité à le faire.
Oui, Monsieur Vernejoux, peut-être on pourrait dire un mot aussi sur l'accompagnement. On le sait dans ces filières d'apprentissage, le tutorat est important en termes de sécurisation des parcours. Alors, vous pouvez nous expliquer un peu ce système de tutorat?
Oui, bien sûr. Alors le tutorat est un petit peu la clé de voûte du dispositif, parce qu'il faut que le jeune soit encadré aussi bien lorsqu'il est au centre de formation que lorsqu'il est en entreprise. Concernant le tutorat, donc chaque jeune va bénéficier de toute façon de deux tuteurs. Un tuteur qui sera un des formateurs du centre de formation et qui sera chargé de suivre la formation de près et d'être le relais avec le tuteur de l'entreprise. Donc le tuteur de l'entreprise, il est défini par l'entreprise, donc ça peut être le chef d'entreprise quand il s'agit d'une petite structure, ça peut être un chef de chantier, un chef d'équipe, enfin peu importe, le tout c'est que ce soit quelqu'un qui soit sensibilisé à ce qu'est la formation et qui soit réellement au contact du jeune. Les tuteurs d'entreprise bénéficient d'ailleurs d'un dispositif de formation mis en place par la Fédération française du bâtiment, qui leur permet donc d'être sensibilisés sur les conditions d'accueil du jeune, sur les contenus de formation, sur les méthodes d'évaluation, etc. Donc on peut dire qu'à ce jour, tout apprenti qui intègre un dispositif de formation chez nous reçoit deux tuteurs et est encadré par ces gens-là qui sont chargés de communiquer entre eux, tout ça dans l'intérêt du jeune et pour mener à bien donc la formation.
Très bien. Alors peut-être juste avant de revenir en conclusion sur la rentrée, la préparation à la rentrée, vous l'avez dit, les diplômes à la fois le CAP ou le brevet professionnel, ça c'est des diplômes nationaux. Voilà, on a un diplôme ici là au centre de formation du bâtiment et travaux publics de Blanquefort, mais il est valable si on va dans le nord de la France, il est valable si on va évidemment dans toutes les régions françaises. Et finalement, c'est un diplôme national et effectivement, il a aussi sa raison d'être quand on peut être employé par une entreprise à l'étranger. C'est un diplôme qui a une valeur qui est reconnue partout, quoi.
Oui, bien sûr, les diplômes qui sont délivrés par l'ensemble des CFA et à Blanquefort tout particulièrement, donc sont des diplômes de l'éducation nationale. Donc CAP, c'est un diplôme de niveau 5 qui est reconnu partout à ce niveau-là. Et donc le BP, brevet professionnel, est un diplôme de niveau 4, je l'ai dit tout à l'heure, qui correspond donc au niveau bac. Donc, mais ce sont bien des diplômes de l'éducation nationale qui sont reconnus partout.
Est-ce qu'on pourrait avoir une idée du taux de réussite des jeunes, voilà, combien finalement arrivent à décrocher le diplôme qu'ils avaient visé?
Oui, alors c'est variable effectivement selon les spécialités. Il y a des spécialités où ça se passe mieux que d'autres, et puis c'est variable aussi selon les années. Je crois savoir qu'on a un taux de réussite qui est supérieur à 85%.
Donc félicitations, Monsieur Vernezoux. Et pour conclure, donc on va vous laisser finir de préparer évidemment cette rentrée. Mais justement, un mot, alors en quoi ça consiste aujourd'hui à votre place d'adjoint pédagogique au centre de formation du bâtiment des travaux publics de Blanquefort? Aujourd'hui, voilà, vous en êtes où dans cette préparation à la rentrée?
Alors pour nous, la préparation de la rentrée, c'est déjà anticiper sur les sections que l'on va ouvrir, que l'on va maintenir ou que l'on va fermer, parce que effectivement, en fonction des effectifs, il y a une fluctuation des sections. Et partant de là, partant de cette hypothèse, eh bien ensuite, il faut affecter les équipes pédagogiques et puis répartir les heures d'intervention sur les différentes matières, quoi. Voilà l'essentiel du travail. Mais c'est quand même quelque chose d'assez long et d'assez méticuleux qui demande du calme pour pouvoir travailler sur la planification, quoi. Parce que nous ne sommes pas un établissement énorme, mais enfin bon, ça représente quand même une soixantaine de formateurs et d'enseignants. Et donc pour arriver à planifier tout ça, ça demande du calme.
Monsieur Vernezoux, on va suivre ce que vous dites, donc on vous laisse au calme. On vous remercie en tout cas, l'ensemble des stagiaires dans le cadre de ce projet du Forum Open Intégration. On vous remercie en tout cas, Monsieur Vernezoux, d'avoir pris sur votre temps précieux pour faire cette intervention et cette présentation du Centre de formation du bâtiment et des travaux publics de Blanquefort en Gironde. Et on vous dit à une prochaine fois, Monsieur Vernezoux.
Merci, bonne journée, au revoir.